Aujourd'hui, dans l'Instant Campus, on s'adresse tout particulièrement aux étudiants de Rennes 2. Vous en avez l'habitude, le service culturel de Rennes 2 vous propose tout au long de l'année maintes activités, que ce soit ateliers, conférences, expositions, rencontres, projections, etc. Au programme de cet Instant Campus, donc, on vous parle de l'atelier d'écriture sur les féminismes et de la nouvelle expo à la Galerie de la Chambre Claire. Avec Léopold, nous avons rencontré Marine Bachelot Nguyen de la compagnie Lumière d'août qui anime cet atelier dont on vous parle. Écriture et féminisme étaient au cœur de la discussion. Marine Bachelot Nguyen, vous êtes autrice et metteuse en scène au sein de la compagnie Lumière d'août, militante féministe qui fait du théâtre politique. Et à côté de ça également, vous animez des ateliers à Rennes 2. Et pas seulement à Rennes 2 d'ailleurs, vous animez des ateliers d'écriture et de théâtre également dans d'autres écoles et en hôpital psychiatrique. C'est important pour vous du coup d'essayer de transmettre cette passion pour l'écriture aux autres, de la partager à travers des ateliers comme ça, et de ne pas écrire et faire son travail toute seule.
Oui, c'est important de partager cette technique et ce plaisir qu'est l'écriture. Après, c'est vraiment à chacun et à chacune des participants des ateliers d'écriture de s'emparer de cet outil et d'en faire ce qu'il ou elle veut. Moi, je dissocie quand même mon travail d'écriture qui est sur des projets, etc., etc., de ce travail de transmission. Mais effectivement, c'est un geste qui est très simple et qui est à la fois technique et créatif, qui peut créer plein d'émotions, être une tribune aussi. Donc, je pense que c'est un outil précieux à partager, quel que soit l'endroit où on le fait. Et effectivement, tout le monde peut écrire, jeune, moins jeune, dans tous les cercles. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de transmettre dans l'atelier d'écriture.
C'est dans cette logique-là aussi que vous avez organisé des lectures, il me semble, dans les rues, pour que la littérature investisse pleinement en fait l'espace public. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces lectures ?
Effectivement, quand j'étais étudiante à Rennes 2 avec d'autres camarades, on avait fait des lectures de textes dans les rues, sous la pluie y compris. Dans le plaisir de partager publiquement la littérature, des textes qui nous plaisaient, et voilà, et d'inscrire la parole aussi et la littérature dans l'espace public. On a fait aussi, dans le cadre de Lumière d'août, évidemment, des lectures dehors de nos textes parce qu'on aime bien travailler à ciel ouvert. Donc là, c'est moins dans l'espace urbain, mais ça peut être autour d'un étang, dans le quartier de Maurepas, dans un déambulatoire ou dans d'autres lieux hors les murs.
On l'a dit, vous êtes quelqu'un d'engagé, très impliqué dans la cause féministe. Et on se demandait du coup concrètement, depuis l'écriture des monologues du vagin d'Eve Ensler en 96, est-ce que le féminisme dans le théâtre a beaucoup progressé ?
Oui, je pense qu'on est dans une période de renouveau féministe. Il y a beaucoup de jeunes générations aussi grâce à des blogueuses, grâce à des bédéastes qui répandent les idées féministes par des biais aussi plus de culture populaire. Et puis plein de choses s'écrivent et puis plein de choses arrivent qui font qu'évidemment on travaille sur ces questions. Et dans les arts, je dirais dans le théâtre, on peut dire qu'il y a, un peu comme il y a de plus en plus de femmes et de jeunes femmes féministes, et ben, il y a aussi de plus en plus d'autrices, de metteuses en scène qui n'ont pas peur de ce mot-là. Moi, quand j'ai commencé à me revendiquer très féministe, c'est-à-dire je fais un projet féministe, c'était encore assez minoritaire et je le revendiquais parce que c'était un peu mal vu ou trop radical. Aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Beaucoup de personnes peuvent l'assumer. Effectivement, on assiste à une éclosion d'œuvres. Alors, c'est beaucoup parfois des montages. On va mettre un petit peu de Virginie Despentes, un petit peu de Simone de Beauvoir, un petit peu voilà. Et puis, il y a des œuvres aussi qui se construisent, qui sont pas forcément uniquement sur le féminisme, mais qui le sont à travers les personnages qui se créent. Ouais, donc il y a eu plusieurs spectacles ces dernières années, on pourrait dire qu'ils sont féministes.
Et vous, du coup, cette fibre-là, vous avez dit que vous aviez commencé à la revendiquer un peu de temps, elle vous est venue d'où ?
Moi, elle m'est venue de la rencontre avec des groupes féministes non mixtes, participation à des groupes militants où on partage de l'intime et du politique, on fait le lien entre le privé et le politique. Donc ça a été des expériences fortes, que ce soit en interne, dans les discussions, dans les lectures que ça m'a amené à faire, dans la rue, sur des actions ou des manifs. Et c'est vrai que c'est venu peu à peu contaminer mon théâtre. J'ai fait tout un cycle théâtral sur les féminismes qui a commencé en 2009 et qui n'est pas complètement tout à fait fini, même si... Voilà. Donc c'est quelque chose qui infuse et c'est venu vraiment d'une expérience militante.
En tant que féministe, c'est une nécessité pour vous, pour d'autres militants et militantes, de savoir écrire sur le féminisme, même si le public visé n'est pas, j'imagine, que des féministes?
C'est, je ne sais pas si c'est une nécessité, non, mais je pense que effectivement, quand on est une femme, quand on est féministe ou pro-féministe, ou qu'on s'intéresse à ces questions d'égalité femmes-hommes, on peut en parler, mais de savoir, ou en tout cas de s'essayer à écrire à partir de ça, sur des biais aussi plus sensibles, plus personnels, plus autofictionnels, ou plus de prise de parole politique et poétique, ça peut être intéressant. Et évidemment, l'objet premier de cet atelier, c'est d'écrire. Il s'appelle féminisme parce que là aussi, il assume que voilà que ce mot-là existe et qu'on peut l'afficher. Après, on va écrire tout simplement. Et évidemment, on va écrire autour de plein de questions et de plein de modèles de texte ou d'énonciations. C'est pas forcément... Voilà, on va s'entraîner à écrire.
C'était justement un peu ce qu'on se demandait. Ouais. Pourquoi vouloir un peu catégoriser justement l'écriture féministe et pas considérer l'écriture comme féministe?
L'écriture, elle peut être féministe, mais elle peut être aussi très réactionnaire. Il suffit aussi de voir les débats là, sur l'usage de la langue, sur la féminisation, l'écriture inclusive. On voit bien que des académiciens et même des politiques résistent à un usage de la langue et du français qui inclurait un petit peu plus et où le masculin ne l'emporterait pas tout le temps sur le féminin. Donc, il y a des enjeux de langue et on transmet des idées, des idéologies en écrivant des modèles, des stéréotypes. Donc, c'est peut-être aussi être plus conscient de ce qu'on peut transmettre consciemment ou inconsciemment dans ce qu'on écrit que l'on travaillera. Voilà. Et moi-même qui écris des pièces féministes, voilà, je ne suis pas non plus à l'abri de reconduction de stéréotypes. On est aussi tous, il y a l'oppression, mais il y a aussi l'aliénation. Donc, donc c'est aussi travailler tout ça.
Et du coup, tout ça, ça passe aussi par le passage du privé au politique. Donc l'une des idées fondatrices du féminisme des États-Unis dans les années 60. Comment on fait pour que notre vécu, ce qui se passe dans notre vie privée, deviennent également politiques, en fait, justement par le biais de l'écriture. Enfin, par quels exercices est-ce que ça passe ce...
Alors, je ne vais pas dévoiler tous mes secrets. mais non, mais à partir du moment où on écrit, voilà, on peut mettre en jeu de l'intime. En fait, souvent, par exemple, je dis, tiens, on va écrire des textes féministes, les gens vont avoir envie d'aller écrire du message, aller envie d'écrire de la tribune politique. Moi, justement, c'est plutôt amené par le fait que ça passe par l'intime et que de l'intime, on passe au politique. Ça peut être passé par du récit d'expérience, mais là encore, on n'est pas dans un atelier de psychothérapie collective. On est là pour écrire, donc on passe par de la forme, on passe par de la structure, on passe par des jeux d'énonciation de langage, on passe par des dispositifs ludiques qui permettent l'air de rien de susciter de l'intime ou de l'extraordinaire. Donc il y a plein d'exemples, de stratégies, mais on est vraiment sur un travail de technique d'écriture aussi.
Depuis tout à l'heure, on parle d'un atelier sur les féminismes et non pas sur le féminisme. Donc la question du pluriel se pose beaucoup. C'était volontaire, du coup, cet emploi du pluriel?
Oui, absolument, parce qu'il y a aussi énormément de débats au sein du féminisme, puisque tout le monde ne se revendique pas des mêmes idées, des mêmes théories, des mêmes courants. On voit bien qu'entre un féminisme blanc qui se réclame d'une égalité des sexes il y a le courant essentialiste, il y a le courant différentialiste. Aujourd'hui, on voit l'afroféminisme, le féminisme musulman. Donc, il y a aussi énormément de diversité, de points de vue qui parfois se confrontent. Les féministes n'ont pas toutes les mêmes positions sur la prostitution, sur le voile, etc., etc. Donc, c'est pas tant faire vivre que ces débats que, en fait, on cherche des paroles situées et que je pense que on n'a pas tout à fait le même féminisme si on est une étudiante précaire racisée que si on est une chef d'entreprise blanche, qui a un certain capital financier et qui vit et pourtant il peut y avoir du commun, mais c'est plus la recherche de ces points de vue situés, peut-être des courants auxquels on se rattache, mais là aussi on fera pas des plongées théoriques monstrueuses. C'est plutôt que chacune puisse écrire à partir, et chacun puisse écrire à partir d'où il ou elle est.
Pendant ces séances d'ailleurs d'atelier, vous invitez aussi les participants à s'emparer de l'humour féministe. Alors justement, on voulait s'interroger, c'est quoi l'humour féministe ? Est-ce que c'est un peu comme l'humour juif à base d'autodérision ou qui joue sur les stéréotypes, ou on est encore sur d'autres choses ?
L'autodérision, oui. Après, si on veut l'humour féministe, en fait, il suffit de regarder l'histoire, hein. Il suffit de regarder les slogans des années 70, du MLF. Il y a énormément d'inventivité, ouais, d'autodérision, de récupération, d'autres traditions. Moi, je trouve que les féministes sont très, très drôles. On ne les présente pas toujours comme ça. Mais il y a énormément de drôleries, de glissements. On peut regarder aussi les vidéos de Carole Roussopoulos. Je profite pour faire de la pub pour un site qui s'appelle Bobine Féministe, qui va bientôt être mis en ligne et où il y aura plein de ressources sur le cinéma militant des années 70 et après, mené par Hélène Fleckinger notamment. Cette invention, oui, qui passe par l'humour, on l'éprouvera dans l'écriture aussi.
Alors, on avait aussi envie de vous poser quelques petites questions sur l'actualité, et notamment sur cette année 2017 qui vient de se passer, qui était chargée au niveau, au niveau avancement dans le mouvement féminisme, et notamment dans la libération de la parole. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bien, effectivement, ce mouvement MeToo, il a été massif. Je ne sais pas s'il a libéré la parole, parce que les femmes parlent depuis longtemps, hein, de ce qui leur arrive, des violences sexuelles et sexistes, des agressions. Simplement, la société ne les entend et ne veut pas toujours les entendre. Donc, au moins, ce que ça a permis, c'est que c'était tellement massif et tellement de femmes ont témoigné qu'à un moment donné, on ne peut plus se voiler la face et se dire « ça n'existe pas ». Après, l'affaire Weinstein aux États-Unis, on voit bien que ça a vraiment fait bouger les milieux culturels, artistiques. En France, il y a davantage de résistance et on voit bien que la tribune des 100 femmes, là, les Catherine Millet, Catherine Deneuve et Catherine Robrier et compagnie, vient soulever le fait qu'en France, on aime bien cette dissymétrie des sexes, de la séduction, qu'on aime bien la séduction à la française qui masque quand même un rapport complètement inégalitaire. Donc le patriarcat et la lutte contre le patriarcat ne sont pas épuisés. J'espère que bien sûr que ça change les mentalités, que des femmes se sentent légitimes pour parler. Ce qui ne veut pas dire que juridiquement c'est encore gagné, parce que là aussi la justice, la police ne sont pas du tout opérantes sur ces questions. Donc combat à continuer, mais on se sent sans doute plus forte.
Récemment, on a pu voir à l'Opéra de Florence, on a pu entendre parler justement d'une mise en scène qui a fait un peu fureur sur la fin de Carmen, avec justement une fin sensiblement différente où Carmen se défend contre John Rosset, et là-bas en légitime défense, ça fait un peu le grand tour des médias. Est-ce que vous y avez vu un acte militantisme ou un acte juste de mise en scène différente ou... publicité.
J'ai pas suivi de près cette affaire, mais effectivement, la fin de Carmen, c'est quand même terrible. Encore un féminicide. Un homme est quitté, donc il tue son ex-compagne. Je pense qu'il faut réinventer, pourquoi pas, ces grands classiques, ces fictions. Je crois qu'il y avait une mise en scène il y a quelques années de Nora, de Maison de poupée, et voilà, pareil, où Nora faisait quelque chose de plus transgressif que quitter la maison et partir. Je crois qu'elle avait une arme aussi. Donc, à réinventer, encore une fois, est-ce que c'est pour se faire de la pub ? Enfin, en tout cas, c'est venir alimenter le débat des arts. Est-ce qu'on continue à reconduire tel quel les œuvres et leurs messages ? Ou est-ce qu'on aussi réfléchit à, quelle est la mise en scène ? On peut garder le même scénario et changer la mise en scène et poser un regard dessus. Mais c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas représenter un féminicide de façon complaisante aujourd'hui.
Personnellement, vous, quels sont vos projets un peu qui vous attendent pour 2018 ?
En 2018, je pars au Vietnam, travailler avec deux interprètes sur les liens entre les grands C, christianisme, colonialisme, communisme, capitalisme et nos mémoires familiales et histoires personnelles. Donc c'est
Ça fait du taf quand même.
Ça fait du taf, c'est gros, mais comme on le prend par un prisme intime, du coup, ça va être plus facile. Et je travaille à une autre pièce qui s'appelle Aquila, le tissu d'Antigone, et c'est autour de la figure d'une jeune lycéenne qui tout d'un coup se met à poser un foulard blanc sur ses cheveux pendant une minute de silence post-attentat. Donc geste transgressif sportif dans l'enceinte du lycée. Et on se rend compte que cette jeune femme est la sœur d'un terroriste coupable d'un attentat. Donc ça pose des questions un peu brûlantes sur la France post-aujourd'hui, sur la France d'aujourd'hui post-attentat, et sur les questions aussi évidemment de laïcité, de comment on vit ensemble autour d'une jeune lycéenne. Et évidemment, oui, c'est une pièce qui a une dimension féministe.
On suivra donc ces projets de Marine Bachelot Nguyen.
Avant de poursuivre cet instant campus, un morceau que vous entendrez régulièrement sur Syllab cette semaine, une mélodie qui réchauffe un peu ce temps bien breton, on écoute Soleil de Volt de Balogi.
Des 0 et des 1 pour neutraliser nos besoins sur des torrents décibels. Les mots font des étincelles.
Après cette pause musicale, on poursuit avec une exposition photo.
Et oui, depuis quelques jours, vous pouvez découvrir l'exposition de Michel Tersiquel sur le campus de Rennes 2. C'est un photographe et artiste breton spécialisé dans le portrait. Et il y avait du monde et du beau monde au vernissage, car défendre la culture bretonne et les artistes bretons, c'est une priorité, notamment pour Jean-Michel Le Boulanger, vice-président à la culture à la région Bretagne. C'est important, tout particulièrement à l'université.
C'est partout important, et c'est important dans un lieu de transmission de savoir, parce que au-delà des connaissances que l'on peut apprendre dans une université, dans quelques disciplines que ce soit, il y a des valeurs aussi qu'il est important de transmettre. Et l'humanité de Michel Tersiquel, sa relation à l'autre, son respect pour toutes les personnes, quel que soit leur rang. Pour lui, il n'y avait pas de seigneur, il n'y avait pas de manant. Chacun était porteur de quelque chose. Ben, ces petites choses-là, ce sont des valeurs assez essentielles qui touchent au sens, qui touchent au vivre ensemble et qu'il est bon aussi que l'université salue.
de grandes et belles valeurs. Oui, mais alors comment faire concrètement quand on est élu référent à la région Bretagne pour soutenir cette mise en lumière ?
Eh ben, en étant là, en soutenant une expérience comme celle-ci, en soutenant des tas et des tas d'expériences menées par des compagnies de théâtre, par des musiciens, par l'éducation populaire, par les salles, par les festivals, qui à chaque fois nous rappellent plusieurs éléments. Un, que quand on est ensemble et qu'on se respecte, on peut faire de grandes choses. Et deux, que l'autre n'est pas forcément une menace. Et que accueillir les autres, quels qu'ils soient, dans un monde aussi troublé que le nôtre, et engager des relations avec les autres, ça peut être une formidable richesse. Et ça, il faut le rappeler partout. Et les acteurs culturels, beaucoup d'entre eux, le rappellent dans les combats qu'ils mènent au quotidien.
Des acteurs du quotidien, donc, qui se battent chaque jour pour faire vivre cette culture bretonne. Mais alors, les jeunes, sont-ils réceptifs à cette culture ?
Oui, et j'en suis très heureux, parce que je crois... D'une part que dans les mondes globalisés qui sont les nôtres aujourd'hui, on a besoin de territoires de proximité avec des singularités. Et d'autre part parce que je suis persuadé que la Bretagne, ce n'est pas une autarcie. On est de Bretagne et du monde. On garde des traditions d'accueil. On garde cet humanisme-là dont je parlais pour qualifier Michel Tersiquel. Je crois que la Bretagne, elle est Bretagne et elle est ouverte. Ouverte aux autres et ouverte au monde. Et cette alchimie-là, c'est une formidable richesse, mais c'est aussi un combat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ériger des murs. Et ici, dans un lieu comme celui-ci, symboliquement, eh bien on tente d'ériger des ponts et des passerelles. Un pont et une passerelle, ça sera toujours mieux qu'un mur.
Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la culture à la région Bretagne. Pas de mur, de l'accueil, on approuve, mais plutôt, oui, des portes ouvertes. Celle d'un café, par exemple, où se retrouvaient Michel Tersiquel et son ami à Pont-Aven pour refaire le monde. Une chance, cet ami était là. On a voulu savoir ce qui faisait la singularité philosophique et photographique de Michel Tersiquel, ce qui faisait la beauté de son regard.
Alors là, attends, je vais faire un cours de philosophie. Des choses que m'ont apprises les profs de l'université de Rennes, où j'étais. C'est un homme paradoxal, mais on est tous paradoxal. D'autant plus que paradoxe, ça vient d'un mot grec, para, ça veut dire contre, et la doxa, c'est les opinions reçues. Donc être paradoxal, c'est pas du tout être contradictoire, c'est avoir en soi des facettes différentes ou différenciées. Lui, il était profondément timide, et ça peut paraître paradoxal, mais aussitôt qu'il était en relation intime, familière avec quelqu'un, autant il était impatient, dans un troquet par exemple, foufou, il fallait qu'il se barre ou qu'il boive. Autant il pouvait rester 4 heures, 5 heures avec un marin pêcheur, une vieille dame du pays Bigoudin. Ou bien moi j'ai été pendant 15 jours avec lui à l'île de Saint en poussant les portes. Ah ben voilà Mimiche, il s'asseyait, c'est moi là qui m'emmerdais. Ouais. Il était capable de parler de tout. Et ça, ça lui plaisait profondément, de toucher le cœur. Il était comme un gamin.
Ça se sent dans la puissance de son regard photographique aussi, cette posture-là, cette personnalité-là, je dirais plutôt.
Ah, je pense, ouais. Oui. Aussitôt qu'on sait que ce n'est pas un paparazzi, qu'aucune des photos, et on en a sans doute 150 000 à gérer, toi, aucune n'a été prise. Certains photographes avaient théorisé ça. L'instant précis de la photographie, ça veut dire quelques secondes après, non, on aurait raté. Quelques secondes avant, non, on aurait raté. Il fallait prendre. Voilà. C'est Cartier-Bresson qui disait ça. Mais Tersi, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est comme ça. Il ne théorisait pas. Il était incapable. Il lui fallait du temps, j'ai dit, pour la mémé Louise avec ses cheveux défaits, au moins 3 ans de rapport humain. Voilà. Et donc il devenait le fiston, il appelait Mich, hey, Mimiche, arrête-toi, bois un café. Et puis voilà. Donc évidemment, dans ces photos, on a vraiment le côté le plus beau, le plus humain de ce que peut avoir l'homme et la femme en Bretagne, mais ailleurs, hein, quand les photos ont été montrées en Pologne, en République tchèque, bientôt au Parlement de Strasbourg, après à l'abbaye de Flarens dans le Gers, voilà, tout le monde s'y retrouve.
Et son identité bretonne, comment est-ce qu'on peut la définir ? Est-ce qu'elle était vraiment affirmée ? Est-ce qu'elle était revendiquée ?
Oui, Mais Tersicale, c'est un peu malgré lui quand même. Là, il faudrait se remémorer l'histoire. On est dans une époque du renouveau de la Bretagne. C'est le grand papa de tout ça, c'est quand même Glenmore. Le chanteur breton, le druide, sautant sur les tables, redonnant confiance à une Bretagne qui avait honte d'elle-même, parce que on nous traitait de ploupes, d'arriérés, quoi. On était bon pour les femmes d'aller faire la boniche à Paris, pour les hommes d'aller travailler en usine, point, quoi. Voilà. Donc c'est Glenmore qui a redonné cette espèce de fierté. Donc Tercy, qui était à Pont-Aven dans toute cette époque, dans un haut lieu de Pont-Aven avec la dernière grande hôtesse de Pont-Aven, recevait tous ces gens-là. Mais aussi les gens du peuple, les marins-pêcheurs qui venaient dans le Troquet. Voilà. Ça s'appelait l'hôtel de la Poste. Et il y avait Xavier Graal, il y avait Georges Perros, il y avait Michel Tersicale, mais il y avait aussi les gens du coin. Et ils refaisaient le monde constamment. Donc, il était... Parce que les photos qu'on voit, les gueules de Glenmore, de Xavier, de Georges Perros, ce n'étaient pas des gens connus à l'époque. Xavier Graal avait travaillé à Paris, donc un peu plus connu. Glenmore à peine en France. Donc voilà, il était en plein renouveau et il a toujours revendiqué, évidemment.
Quand on consacre une partie de son activité aux Amis de Tersicale, justement, cette association-là, c'est pas innocent de s'engager comme ça. Qu'est-ce qui, pour vous, faisait écho et pourquoi c'était indispensable pour vous de rendre hommage et de contribuer à la diffusion de son œuvre ?
Eh ben, d'abord, parce que c'est lui qui m'a appris le regard photographique. Quand on fait, comme j'ai fait à l'époque des études de philo, il était hors de question de citer dans un devoir un photographe. Hein, il y avait des arts reconnus, là on avait des points, mais les photographes non. Donc c'est lui, puis tous les photographes qu'il connaissait qui m'ont appris ça. Donc je lui dois ça. Ensuite, ça a été quand même mon grand pote pendant un quart de siècle. Et là, je n'ai pas le temps de raconter pourquoi, qu'est-ce qu'il était, mais profondément humain, quoi. Donc il m'a appris aussi ça, à vivre, je sais pas, une espèce de fidélité, même s'il était taiseux, ça ne se dit pas, c'est à travers des mots, des regards, tu vois, même si tu as un vocabulaire restreint, tu sais qu'il est là, qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc Je peux pas laisser tomber un tel personnage. Outre que c'est un grand artiste, bien sûr, mais je lui dois beaucoup de choses. Donc c'est normal de faire connaître son œuvre.
Elle sonne bien, cette amitié, n'est-ce pas ? Eh bien, cette œuvre, elle est à découvrir à la Chambre Claire, au rez-de-chaussée de la Présidence, à Rennes 2. Et c'est à la fin de cet Instant Campus.